Alors, nous reprenons le fil de notre entretien avec Sylvain Artero, donc, qui va animer une conférence, enfin, qui va faire une conférence hein, de la fourchette aux neurones, comment l'alimentation impacte notre mémoire. Alors, vous avez commencé déjà à développer votre propos. Alors, comment, les recommandations que vous pouvez faire, ça fonctionne comment après le résultat de vos recherches, comment il peut effectivement devenir une pratique ou une recommandation de bonne pratique à l'adresse des professionnels, des gens qui s'occupent de nutrition et du grand public.
Alors aujourd'hui, la recommandation principale pour l'alimentation dans cette pathologie, c'est vraiment le régime méditerranéen. Il y a de nombreuses études qui ont montré que ce régime-là était vraiment le meilleur en fait pour prévenir cette pathologie.
Donc avec de l'huile d'olive notamment.
Notamment de l'huile d'olive, voilà. Beaucoup de légumes, de fruits, de légumineuses, des céréales complètes. Un régime qui limite la viande rouge et qui limite tout ce qui est sucre raffiné aussi, tout ce qui est produit transformé et qui introduit aussi le poisson au moins deux fois par semaine. Ce régime a l'avantage d'être très riche en oméga-3 avec les poissons 3. Ces oméga-3 vont maintenir les membranes neuronales en fait, et favoriser tout ce qui est plasticité synaptique. Les antioxydants aussi.
Alors,
dans les fruits et les légumes.
Excusez-moi, parce que pour le grand public, plasticité synaptique, je devine de quoi il s'agit, oui. Mais pour notre public, ce n'est pas évident. C'est la capacité, au câblage qu'il y a dans le cerveau, de se reconfigurer lorsqu'il y a une partie lésée, de la contourner et puis de continuer à fonctionner.
Voilà, c'est exactement ça. C'est tous les chemins, en fait, tout ce qui relie nos neurones entre eux.
Voilà, les synapses étant ce qui relie les neurones les uns aux autres.
Et aussi notre capacité de l'hippocampe aussi à faire de nouveaux neurones.
D'accord.
Donc ces oméga-3 vont être très importants dans cette plasticité. Les antioxydants aussi vont être très importants pour neutraliser ce qu'on appelle les radicaux libres. En fait, c'est ce que nous produisons en fait, quand nous fonctionnons, nous respirons. Et on peut dire que ces radicaux libres sont en fait une sorte de rouille pour nos cellules. Et on doit mettre des antioxydants en fait, pour ne pas que ces cellules s'abîment. Donc on va trouver ces antioxydants dans les fruits et les légumes. Et quelque chose de très important aussi, aujourd'hui on s'en rend compte, c'est les vitamines du groupe B, les B6, les B9 et les B12, qu'on va aussi trouver seulement dans l'alimentation. Et pourquoi ces vitamines vont être super importantes? Parce qu'elles vont être capables de faire baisser dans le cerveau le taux d'un composé qui s'appelle l'homocystéine et qui est toxique pour le cerveau. Et seulement ces vitamines vont être capables de transformer en des composés non dangereux, en fait, ce taux d'homocystéine dans le cerveau. Et notamment, c'est très important pour la B12, parce que la B12, on va ne la trouver que dans les composés animaux. Donc, il faut faire vraiment attention pour les personnes qui sont végétariennes, véganes, d'avoir vraiment un taux suffisant de cette B12 pour faire baisser ce composé neurotoxique dans le cerveau.
D'accord. Alors, quand j'entends ce que vous dites, de tout ce que la recherche a pu trouver ces dernières décennies, là, ça concerne tous les âges de la vie. Donc, je me disais, est-ce que ça se traduit aujourd'hui par des recommandations de bonnes pratiques du côté des ARS, par exemple? C'est une de leurs fonctions aussi, hein, les agences régionales de santé, en principe. Hein, voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça sur... Je dis pour la formation des... Je pensais à la restauration scolaire, par exemple, dans ce que vous dites. Ah oui, non, mais je sais pas, vous n'êtes pas spécialisé en restauration scolaire. Mais à un moment donné, c'est important qu'ils aient aussi quelques notions sur ça, qu'ils aient des recommandations sur ce qui convient d'éviter trop de laitage, par exemple, que sais-je, ou de favoriser les légumes plutôt que la viande. Est-ce qu'il y a des dispositifs qui permettent de faire évoluer les pratiques?
Je pense quand même que les restaurations scolaires ont des diététiciens quand même qui sont assez au courant en fait des aliments à introduire, etc. Après, c'est toujours une question aussi de prix de l'alimentation.
Bien sûr, bien sûr.
C'est le cas en restauration scolaire et c'est le cas dans les EHPAD aussi. Voilà, oui. Où l'alimentation est vraiment très importante pour les personnes âgées. Et on sait qu'aussi, il peut avoir un problème de coûts, de marché, d'appel d'offres, qui fait que les EHPAD pourraient choisir des entreprises qui privilégient moins la qualité que d'autres entreprises. Donc, c'est, pourtant, chez la personne âgée, ça va être vraiment central, cette question de l'alimentation.
Alors, c'est une recherche donc, qui est sur la prévention. Hein, vous nous avez expliqué, vous me disiez avant l'entretien, ben voilà, le terrain curatif sur la maladie d'Alzheimer tâtonne beaucoup. Et c'est, pour l'instant, on n'a pas trouvé le truc, si je puis dire. Et du coup, les politiques, c'est vraiment la politique de prévention. Donc, vous travaillez sur l'alimentation. Est-ce qu'il y a... J'imagine que vous êtes en réseau avec tout un tas d'autres centres de recherche. Est-ce qu'il y a d'autres dimensions de la prévention qui sont particulièrement travaillées au-delà de l'alimentation ?
Oui, bien sûr. Dans les études de cohorte, nous avons mis en évidence plusieurs leviers de prévention. C'est d'abord l'activité physique. C'est le levier le plus puissant après l'alimentation. Il va pouvoir amplifier la neurogénèse, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et combiné au régime méditerranéen, cette activité physique va avoir vraiment un effet synergique, en fait, pour améliorer la connectivité dans le cerveau, améliorer la structure cérébrale. Il y a beaucoup d'études en imagerie qui nous ont montré que la connexion entre activité physique et alimentation méditerranéenne pouvait vraiment améliorer la structure de notre cerveau. Il y a la réserve cognitive dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est notre capital cérébral. Donc cette réserve cognitive, on peut l'acquérir grâce à l'éducation, la stimulation intellectuelle, les activités qui sont cognitivement exigeantes aussi. Quand vous pouvez acquérir de nouvelles compétences difficiles, apprendre une langue, faire des maths, jouer aux mots croisés, enfin voilà, des activités qui demandent en fait de vraiment avoir de la réflexion.
Oui, c'est ouais. De maintenir une espèce d'entraînement voilà, permanent du cerveau,
voilà, c'est ça,
une pratique
c'est ça.
Cérébrale qui est bénéfique.
Exactement. Ce qui est super important aussi, ce sont les activités sociales, les interactions sociales.
Ouais.
Partager, débattre, c'est vraiment... les liens avec les autres sont vraiment très importants, en fait, pour maintenir des bonnes capacités cognitives. Il y a aussi tout ce qui est sommeil. En fait, c'est très important de bien dormir 7 à 8 heures par nuit. Parce que pendant le sommeil, il va avoir un nettoyage nocturne du cerveau. Donc si on manque de sommeil, ce nettoyage ne pourra pas se faire. Et on sait en fait qu'un mauvais sommeil est en lien aussi avec la survenue de maladies d'Alzheimer. Ce qui est aussi important, c'est la gestion du stress, le stress chronique. Alors un stress ponctuel est normal, mais un stress chronique va faire qu'on va élever notre niveau de cortisol dans l'organisme et qu'un niveau de cortisol élevé va être neurotoxique en fait pour l'hippocampe. Donc c'est très important aussi d'arriver à gérer son stress, par exemple par de la méditation, par du yoga, pour ne pas que le cerveau soit altéré par ce stress.
Donc j'ai envie de dire, le monde du travail qui est réputé pour être un facteur de stress extrêmement important, ben voilà, il y a des pratiques qui pourraient se développer, qui permettraient de meilleure santé mentale, j'ai envie de dire, un état et une prévention d'Alzheimer.
Oui, tout à fait, parce que le stress va agir à la fois sur la santé mentale, la dépression et la maladie d'Alzheimer. Donc on pourrait avoir des pratiques. Alors le stress l'environnement stressant peut être là, mais après c'est à nous de trouver les capacités à pas se laisser envahir par ce stress et à pouvoir mieux le gérer.
Vous personnellement dans ce que vous nous dites là, mais vos recherches donnent plein de pistes qui font que Alzheimer peut ne pas être une fatalité. Hein, je crois que beaucoup de gens le vivent un peu comme une fatalité. Une maladie, on ne peut rien faire. Si, on peut faire avant que la maladie apparaisse.
Si, voilà, exactement. On peut faire avant que la maladie apparaisse. Et tout au long de notre vie, en fait, on peut accumuler, avoir ce que je pourrais appeler un bouclier, en fait, contre la maladie d'Alzheimer. en combinant tous ces aspects, on pourrait arriver vraiment à se protéger. Un des aspects dont on n'a pas parlé aussi, c'est vraiment contrôler tout ce qui est les facteurs cardiovasculaires. Par exemple, l'hypertension, le diabète, l'obésité, ça va être des facteurs de risque importants. Et le diabète notamment, parce qu'on appelle aussi la maladie d'Alzheimer maintenant le diabète de type 3. Parce que le diabète, ça commence par une insulinorésistance périphérique, mais on sait qu'il peut avoir aussi une insulinorésistance dans le cerveau. C'est-à-dire que le cerveau ne va pas pouvoir utiliser le glucose et les neurones ne vont pas pouvoir fonctionner. Donc c'est très important en fait de contrôler en fait son niveau de glucose, son insulinorésistance.
Bien, ben, voilà, encore des pistes, comme quoi les pistes sur la prévention à défaut de la guérison d'Alzheimer sont nombreuses. Ben, le temps qui nous était imparti est écoulé. Merci beaucoup Sylvain Artero, donc chargé de recherche à l'INSERM. Et je rappelle à nos auditeurs, ben, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller écouter Sylvain Artero jeudi 2 mars. De 18h à 19h30, c'est à la MSH sur le site Saint-Charles. C'est le 12 mars, voilà, je n'ai pas dit, merci. Le 12 mars, donc 18h, 19h30. De la fourchette aux neurones, comment l'alimentation impacte notre mémoire. Merci beaucoup, Sylvain Artero, de votre disponibilité.
Merci, au revoir.